SBS Audio is supported by advertising.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
La rétrospective du jour, on remonte le temps 58 ans en arrière et on vous parle du 31 janvier 1968, date à laquelle l'île de Nauru devient indépendante. Quelles conséquences pour cette île autrefois rêve d'abondance? Réponse avec Iléana Guillochon.
Au milieu de l'océan Pacifique, il existe une île si petite qu'on la cherche parfois sur les cartes. Son nom, Nauru. Le troisième plus petit état au monde. Le 31 janvier 1968, cette île devient une république. Mais son histoire d'indépendance est aussi celle d'une exploitation massive, d'une richesse fulgurante et d'un lourd héritage. Des vents chauds, un plateau central verdoyant, des palmiers qui se balancent doucement et des plages de sable blanc. Pendant des milliers d'années, les Nauruans d'origine micronésienne et polynésienne vivent en harmonie, isolés mais parfaitement autosuffisants. 1798, les Européens découvrent Nauru. L'île est alors appelée Pleasant Island. En 1888, Nauru est annexée et intégrée au protectorat allemand des îles Marshall. Quelques années plus tard, un géologue examine une roche que l'on croit être du bois. Mais surprise, c'est du phosphate de très haute qualité. Un engrais extrêmement prometteur. La découverte est immense, plus de 80% de l'île en est recouverte. Nauru ne sera plus jamais la même. Très vite, l'exploitation débute et s'intensifie. On parle de paysages dévastés, d'arbres arrachés, de végétation rasée et de sols éventrés. Il ne reste que des affleurements de calcaire en forme de pinacle. Après la Première Guerre mondiale, l'Australie prend officiellement le contrôle de Nauru. L'île est alors déclarée site minier offshore et les exportations continuent d'augmenter rapidement. Dans les années 1920, Nauru exporte environ 200 000 tonnes par an. 20 ans plus tard, cette quantité est multipliée par plus de 4, vendue à bas prix pour soutenir les agriculteurs d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Grande-Bretagne. Seconde guerre mondiale, l'invasion japonaise de 1942 suspend temporairement l'exploitation du phosphate. Et l'occupant a déporté la moitié de la population dans les camps de concentration de l'atoll de Truk. Les survivants reviennent à Nauru seulement 4 ans plus tard. Après la guerre, Nauru est placé sous tutelle de l'ONU et confié de nouveau à l'administration australienne en coopération avec la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande. Dans les années 60, l'Australie est déjà présente sur l'île depuis près de 50 ans. L'exploitation du phosphate lui rapporte énormément, mais ne laisse que des miettes aux habitants. Peu à peu, la patience des Nauruans s'épuise. Conscients de la richesse enfouie sous leurs pieds, ils dénoncent le pillage des ressources et demandent une répartition plus juste des bénéfices pour que toute la société en profite. Le chef et leader indépendantiste, Hammer de Robert, va plus loin. Il réclame des redevances plus élevées sur le phosphate exporté, conscient que les gisements pourraient être épuisés en seulement une trentaine d'années, laissant l'île sans ressources. Pour des questions logistiques, les Australiens envisagent de déplacer toute la population sur une île au large du Queensland, mais ils se heurtent à la ferme opposition des Nauruans qui choisissent de défendre leur autodétermination. Ça s'est passé le 31 janvier 1968, Nauru obtient son indépendance et Hammer de Robert sera son premier président.
I feel very sure of this. The forecast of income in the time when there will be no more phosphate it compares quite favorably with what is being received today.
Les cérémonies se déroulent en présence de représentants de nombreux pays, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Canada, la France, l'Allemagne, mais aussi deux voisins du Pacifique et même des Nations Unies. Nauru obtient son nouveau statut dans des conditions économiques et politiques particulièrement favorables. Sauf que l'île avait déjà été exploitée d'un tiers, environ 35 millions de tonnes de phosphate avaient déjà quitté le rivage, revenir en arrière était impossible. Les Narouans essaient alors de vendre leur dernier phosphate. Dans les années 1970, le cours est au plus haut. Le Phosphate Royalties Trust vaut plus d'1 milliard de dollars australiens et le PIB par habitant place Nauru au deuxième rang mondial, juste derrière l'Arabie Saoudite, et même 3 fois plus que les USA, un niveau qui se maintiendra jusqu'aux années 1990. Le gouvernement multiplie les avantages sociaux, pas d'impôts, éducation et soins gratuits, investissements dans l'immobilier à l'étranger, croisières, achats de terres dans divers pays du Pacifique et même la création d'une compagnie aérienne, Air Nauru. Les dépenses sont faramineuses. Malgré cette richesse, tout finit entre quelques mains. Gaspillage, mauvaise gestion, corruption, dégradation de la santé publique, Nauru en paye le prix pendant que les gisements de phosphate s'épuisent. C'est la descente aux enfers. Après l'indépendance, l'Australie refuse d'aider Nauru. En 1989, l'île saisit alors la Cour internationale de justice pour obtenir des compensations à cause de la surexploitation du phosphate. L'Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande donnent finalement des indemnités, mais c'est bien peu comparé aux dégâts subis. Pour diversifier l'économie et préparer un après-phosphate, les dirigeants décident de se tourner vers le blanchiment d'argent et la vente de passeports. L'île devient alors un paradis fiscal et appartient à la liste noire. En 2001, Nauru accepte d'ouvrir un centre de détention de clandestins géré par l'Australie, mais ça ne compense toujours pas et en plus ça fait polémique.
The minister has acknowledged this morning for the first time that things are not okay inside the Nauru detention camp, but talk is cheap. The minister needs to act.
Pour assurer sa survie, Nauru mise également sur ses relations diplomatiques en échange d'une aide financière, par exemple en soutenant Taïwan sur la scène internationale. Au fil des années, Nauru devient la cible de nombreuses critiques de la part des organisations internationales. À la crise économique s'ajoute une crise sanitaire majeure. Le pays affiche aujourd'hui l'un des taux d'obésité les plus élevés au monde. Désormais, Nauru est une île meurtrie, peuplée d'à peine 12 000 habitants, marquée par la surexploitation de ses ressources, l'effondrement de son modèle économique et les conséquences de l'hyperconsumérisme.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.